Lorsque l'on pense développement, Patrick Mundler rappelle tout d'abord qu'il n'est pas facile, pas automatique du tout, de faire concorder régions et activités. Il faut voir les tensions, les risques, par exemple, d'activités trop exclusives. Il faut penser diversité, complémentarité et mise en valeur. Les prémices sont nombreuses.
La première prémisse, c'est qu'il y a toujours quand même une tension entre le développement sectoriel d'une branche de l'économie et le développement territorial. La logique de développement sectoriel, ça conduit à ce qu'on se spécialise. On est dans le monde de la compétition. L'enjeu, c'est de survivre, et puis c'est normal, dans un cadre de compétition. Résultat, quand une ville ou un territoire rural, peu importe, dépend complètement d'une spécialisation, d'un secteur, puis que ce secteur entre en crise, eh bien, le territoire doit se reconstruire. Alors, paradoxalement, aujourd'hui, à Détroit, ils le font autour de l'agriculture en partie. Alors que la logique de développement territorial, ben, c'est d'abord l'attachement à un endroit qui va jouer. On n'a pas besoin spécialement de spécialiser la main-d'œuvre, de toujours dans la spécialisation. On va essayer de comprendre plutôt comment tenir avec des ressources qu'on a sur un territoire donné. Et donc, c'est plutôt la coopération que la compétition, c'est plutôt la flexibilité que la spécialisation, etc. Donc ça, c'est une première prémisse. La deuxième prémisse, c'est que l'agriculture, les pêches, ce sont des secteurs qui ont des spécificités. On travaille avec du vivant, ça a été rappelé. On utilise des ressources dont la quantité à l'échelle mondiale, elle est finie. Des terres agricoles, on ne va pas en créer une fois qu'on a tout utilisé. Les océans, c'est la même chose. L'agriculture, si je reviens à elle, elle a besoin de terres. Et puis, la valorisation économique qu'elle tire des terres, elle est toujours plus faible comparée à ce qu'on peut tirer en ayant d'autres usages. La rentabilité à l'hectare des condos est plus forte que la rentabilité à l'hectare du blé, on est d'accord là-dessus. Mais en revanche, par ses activités, elle contribue évidemment à modeler le cadre de vie, à aménager l'espace, et donc elle a une relation particulière au territoire par rapport à d'autres secteurs de production. Ma troisième prémisse est la suivante, c'est que si on s'en tient au marché de masse, eh bien, la compétitivité va dépendre essentiellement des coûts du capital, du travail, des ressources naturelles. Jusque-là, c'est assez simple. Mais ça conduit à une évolution qui est pratiquement inévitable. Concentration au sein d'entreprises de plus en plus grandes, parce qu'on va aller chercher des économies d'échelle, des gains de productivité. Spécialisation des entreprises et des territoires qui peuvent aller à l'encontre de la logique de développement territorial dont j'ai parlé tout à l'heure. Industrialisation des processus de production. On s'étonne de temps en temps de penser que les enfants croient que les poissons poussent dans la mer carrée avec déjà de la panure autour. Et puis, intensification des usages, de l'usage des ressources. Puis j'ai écrit « surtout lorsque les coûts sont différés ». Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si, je vais prendre un exemple à l'autre bout du monde, comme ça personne ne se sentira directement concerné. Lorsque, dans certains pays du Moyen-Orient, on pompe dans des nappes millénaires pour faire pousser du blé, eh bien on vide ces nappes petit à petit. On en pompe à peu près 20 fois leur recharge annuelle. Un jour ou l'autre, il n'y aura plus d'eau. Ou alors, elle sera tellement salée qu'on ne pourra plus la faire. Voilà. Mais là, les coûts sont différés. Ce coût-là, il arrivera plus tard pour les générations futures. Donc, il y a une intensification de l'usage des ressources. Puis, quand elles sont gratuites, bah forcément, on a tendance à s'en servir de plus en plus. Donc, qu'est-ce que je tire comme enseignement de ces trois premières prémisses? On peut avoir, dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture, une dissociation entre croissance sectorielle et développement territorial. Il y a des risques pour certaines filières. Lorsque se pose la question de la masse critique d'acteurs pour conserver des services de la recherche et développement, etc., etc. Avec cette concentration. Hein. Les fermes deviennent plus grandes, ça a été rappelé, puis sont plus difficilement transmissibles. On a des difficultés autour de ça. Puis qu'est-ce qu'on voit arriver? Ben, on voit arriver des investisseurs, que je vais appeler capitalistes, par rapport aux investisseurs des familles agricoles. L'isolement social d'agriculteurs seuls sur leur rang. J'ai entendu dire qu'il y avait de plus en plus des travailleurs de rang qui étaient préoccupés d'accompagner ça puis de réagir là-dessus. Et des externalités environnementales.
Donc, le développement, la croissance des entreprises peuvent être bien stimulants pendant un temps, mais mener à un genre d'impasse. Par exemple, si on a trop grossi, il n'y a souvent qu'un plus gros encore qui peut reprendre l'entreprise et maintenir les activités dans la région. Le professeur Patrick Mundler est un spécialiste des circuits alimentaires de proximité et des relations entre l'agriculture et les territoires ruraux et périurbains, et il soumet encore d'autres éléments à la réflexion. Un phénomène retient son attention, l'agriculture a tendance à se développer davantage à proximité des bassins importants de population.
L'agriculture au cœur du développement des territoires, point d'interrogation. J'aurais voulu pouvoir mettre un point d'exclamation. J'ai pas pu. J'ai procédé de la façon suivante. Je me suis intéressé à essayer de croiser des données qui sont les données de l'indice de vitalité du ministère des Affaires municipales avec certaines dimensions du recensement agricole. Un petit rappel, au Québec, la population, elle est très fortement concentrée. Si je regarde la vitalité des municipalités, c'est-à-dire que je prends l'indice utilisé par le ministère des Affaires municipales, le MAMO, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? C'est que la vitalité des municipalités, elle est fortement corrélée à la densité de la population. Les endroits où l'indice est élevé, c'est là où il y a de la population. Si je regarde les fermes maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre 1951 et 2011? On voit une disparition énorme du nombre de fermes. Donc là, c'est la densité de fermes au kilomètre carré. Vous voyez qu'en 50, il y avait encore plein d'endroits au Québec où il y avait plus de 2 fermes au kilomètre carré. En 2011, au recensement de 2011, il n'y en a pratiquement plus. Et puis, si je continue toujours, je regarde maintenant où est-ce que l'agriculture produit le plus de richesses. Là, c'est la densité de revenus agricoles au kilomètre carré, là aussi. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que quelque part, c'est plus élevé là où tout à l'heure, on a déjà vu qu'il y avait plus de population et puis plus de vitalité économique. C'est-à-dire que quelque part, on voit que l'agriculture, elle arrive, elle se concentre là où il y a aussi la population, là aussi où il y a la vitalité. Mais de fait, est-ce que je peux tirer une relation entre cette vitalité de l'agriculture puis la vitalité des territoires? Pas vraiment. Là, j'ai regardé les municipalités de plus de 2000 habitants, puis en dessous, les municipalités de moins de 2000, là où on se pourrait se dire, il y a de l'agriculture, il se passe quelque chose. Et puis, vous avez la densité des fermes et l'indice de vitalité. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a bien une petite corrélation, mais elle est pratiquement la même. Et puis, un nuage de points avec pas mal d'éclatements. Bon. Difficile de tirer de tout ça l'idée, et je le regrette parce que c'est ce que j'étais allé chercher quand j'ai commencé à travailler sur ces données, qu'il y a une relation entre la vitalité des municipalités aujourd'hui et la densité des exploitations agricoles. Difficile de trouver ça. Il y a une certaine polarisation des fermes au Québec, avec des petites, des grandes, etc. Ce que je veux souligner là, c'est l'évolution de ça. Les fermes moyennes, je vais les mettre à partir de 100 000. Et ce qui est frappant, si on regarde depuis 91, puis ça, les chiffres de 2016 que j'aurais pu mettre là, ils confirment ce que je vais vous dire là, c'est qu'au fond, on a une diminution des fermes moyennes, une croissance des fermes grosses, les plus de 500 000, et une relative stabilité qui peut paraître surprenante des petites fermes qui sont à moins de 100 000 dans le temps. Qu'est-ce qui se passe pour ces petites fermes? Où sont-elles? Eh bien, on s'aperçoit qu'elles sont là où il y a moins d'agriculture. Où sont-elles situées? Elles sont situées dans les territoires périphériques. Vous vous rappelez tout à l'heure, l'agriculture était concentrée plutôt au niveau des terres du Basse-Terre du Saint-Laurent, pour aller vite, mais aussi là où il y avait de la population. Et les petites fermes, elles occupent les espaces périphériques. Alors, qu'est-ce que je tire de tout ça? Pareil, principaux enseignements. On voit et on assiste à une concentration progressive de l'agriculture. Cette concentration, elle est à la fois sectorielle, les fermes grandissent, et puis elle est territoriale, les fermes se concentrent sur le plan spatial, et manque de chance, entre guillemets, elles ont tendance un peu à se concentrer aussi là où il y a déjà de la concurrence d'activités et d'autres choses. Dans l'ensemble, le rôle de l'agriculture sur la vitalité socio-économique des territoires, il s'affaiblit. Encore une fois, j'aurais voulu trouver autre chose, mais je m'aperçois de ça. L'agriculture, aujourd'hui, elle pèse moins sur la santé et la vitalité des territoires qu'avant. Et donc, évidemment, on peut se poser la question de cette reconnexion entre agriculture et territoire. Et puis, ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est que ça nous montre aussi qu'on a des territoires qui ne sont pas les mêmes. Ces territoires qui ne sont pas les mêmes, ils n'ont donc pas les mêmes enjeux. Et si on raisonne une politique, quelle qu'elle soit, à un moment donné, il faut se poser la question de son adaptation aux spécificités des territoires.
Si l'on choisit dans une future politique bioalimentaire du Québec de développer l'agroalimentaire par une contribution importante des régions, Patrick Mundler est d'avis qu'il faudra le faire par une contribution générale. Il faudra considérer que la valeur des produits et la rentabilité des entreprises ne seront solides et ne pourront durer dans le temps que si l'on peut les appuyer sur toutes les ressources du milieu, de chacune des régions et de la société globalement.
Il y a longtemps, en 1984, en France, les organisations agricoles, en Europe d'ailleurs, toute l'Europe, les organisations agricoles disaient « pas de pays sans paysans ». Pas de pays sans agriculture. Et ce géographe très connu, Jacques Lévy, il a écrit un article. Puis il a dit « Oser le désert, et alors ?» C'est-à-dire, en gros, il a expliqué dans son article que cette histoire de pas de pays sans paysans, ça ne correspondait pas à l'évolution de l'agriculture moderne et que les pays allaient bien se débrouiller sans l'agriculture. Ils pouvaient devenir des réserves naturelles, ils pouvaient devenir des zones touristiques, ils pouvaient faire d'autres choses que de l'agriculture. Si on décide de soutenir le choix du développement des territoires, ben c'est au fond un choix de société. Qu'est-ce qu'on veut faire, hein? Et puis on peut choisir que non, on va concentrer nos efforts là où il y a de la compétition à gagner. Mais on peut aussi décider que ça a de l'intérêt et de l'importance de favoriser le développement des territoires. Et si on décide ça, alors une décentralisation plus forte des politiques me semble nécessaire, de telle façon à rendre au territoire un petit peu plus de choix, à rendre au territoire la possibilité d'adapter les choses en fonction de leurs caractéristiques. Ça conduit aussi à un dialogue qui contribue à rapprocher les citoyens de leur agriculture. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a parlé dans les réunions de préparation au sommet de producteurs-consommateurs. Mais le consommateur, de temps en temps, il est citoyen. Et puis de temps en temps, le citoyen, il n'est pas d'accord avec le consommateur qui lui-même aussi. C'est-à-dire qu'il est des fois tiraillé et en contradiction. Donc un dialogue, je pense que par exemple les PDZA ont mis la table là-dessus, pour mettre en œuvre des politiques intégrées qui articulent les logiques territoriales et sectorielles, je retourne au début de mon exposé, et qui permettent de relier les choses. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un dire qu'il ne faut pas laisser le ministère de l'Environnement puis le ministère des Affaires municipales intervenir sur nos affaires. Mais je pense exactement le contraire. Je pense que justement, on va y arriver s'il y a des politiques intégrées qui mêlent les enjeux de la santé, du développement territorial, de l'agriculture et de la protection de l'environnement.
Ici Lionel Levac. Pour que la future politique bioalimentaire du Québec atteigne ses objectifs, de faire du secteur un atout économique encore plus fort, de fournir aux consommateurs les produits sûrs et de qualité qu'ils réclament, et de le faire avec des entreprises qui produisent et transforment ces aliments en étant rentables et prospères, il faudra donc, selon le professeur Patrick Mundler, admettre que c'est un vaste projet de société qui devra être mis en place. Tout le monde devra y contribuer et, en parallèle, accepter les influences et exigences des autres. À bientôt.